Après les violences qui ont lourdement endeuillé les provinces du Kasaï, que pourrait être le rôle des populations locales, des autorités provinciales et de la MONUSCO dans la consolidation de la paix? Comment pourrait-elle appuyer les efforts de la MONUSCO dans sa mission de protection des civils en ce moment où elle est en train de renforcer sa présence dans cette partie du pays? Et pour en parler, je reçois Maître Mupompa Ngalamulume. Bonjour, Monsieur le ministre.
Bonjour Alain.
Merci beaucoup. Vous êtes ministre provincial de la Justice, Droits humains, Presse et Information, Lutte contre les violences sexuelles et relations avec l'Assemblée provinciale. Maître Adrien Elobakwe, bonjour.
Bonjour Alain Hiroum.
Vous êtes président provincial de l'Association congolaise pour l'accès à la justice à Cage en sigle. Monsieur Essoessi, bonjour.
Bonjour Alain.
Vous êtes coordonnateur des affaires civiles et chef de bureau intérimaire du bureau régional de la MONUSCO. Mesdames et messieurs, cette émission est enregistrée dans la salle de la jeunesse située sur 4 avenue André-Guillaume Loubaya au quartier Malandi dans la commune de Kananga. Est-ce que la population de Kananga est là? Est-ce que Kananga est là? Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Plus d'un million de déplacés selon les agences onusiennes, plus de 3 000 morts selon l'Église catholique et des dégâts matériels importants. Tel est le bilan non exhaustif des violences qui ont secoué la région du Kasaï. La conférence sur la paix, la réconciliation et le développement de l'espace kasaïen a été organisée à Kananga par le président de la République pour que cette partie du pays puisse retrouver sa quiétude d'antan. Quel rôle peuvent jouer les populations et les autorités locales ainsi que la MONUSCO dans la consolidation de la paix après la tenue d'un tel forum? Maître Mupompa Ngalamulume, vous êtes ministre provincial de la Justice, Droits humains, Presse et Information, Lutte contre les violences sexuelles et relations avec l'Assemblée provinciale. Comment vous répondez à cette question?
Bien, merci beaucoup Alain Hirung de l'invitation. Je voudrais avant toute chose avoir une pensée pieuse en mémoire de Désiré Bahiré qui nous a quittés. Il a travaillé avec vous. L'occasion faisant le larron, je présente en même temps mes condoléances à sa famille. Je voudrais commencer par le rôle de la population parce que sans population, on ne peut pas prétendre être autorité. À la population, son rôle, c'est de pouvoir s'approprier le processus de pacification, le processus de cette paix qui a été perturbée par l'activisme de la milice de triste mémoire. La population devra jouer le rôle d'avant-plan pour permettre à ce que tous les acquis de cette paix puissent être consolidés. Elle doit jouer le rôle de pacificateur. Elle doit permettre à ce qu'ensemble nous puissions oublier ce que nous avons déploré, les atrocités, et regarder dans la même direction pour pouvoir développer notre province. Et s'agissant du rôle des autorités provinciales, comme vous le savez, les autorités provinciales ont comme rôle la protection de personnes et de leurs biens, et nous allons y veiller. Comme vous le savez, l'État congolais s'est résolument engagé à pouvoir rétablir la paix dans cette partie de l'espace, comme le président de la République l'avait souhaité. Il avait dit lors de son discours sur l'état de la nation au mois de mars, il s'était engagé à pouvoir restaurer la paix dans cet état de la République. Et aujourd'hui, les choses sont en train de se normaliser, la paix est revenue. Le train de la vie a repris normalement, les populations vaguent à leurs occupations. Nous, en tant que pouvoir public, en tant qu'autorité provinciale, nous allons pouvoir veiller à ce que cette paix ne puisse plus être troublée. Et dans le même ordre d'idée, nous avons un grand partenaire, un partenaire d'État qui est la MONUSCO. Nous allons lui demander de pouvoir continuer à aider le gouvernement provincial dans la consolidation de cette paix.
Monsieur le ministre, en parlant de l'appropriation par la population de ce processus de pacification, mais cette même population estime pour une plus grande partie que la vraie réconciliation n'a pas eu lieu. Comment elle pourrait s'approprier un processus où elle ne se retrouve pas?
Bien, merci. La réconciliation comme la paix sont des processus. On commence quelque part et on évolue
pour arriver à une véritable paix. On ne peut pas dire qu'après les atrocités qui ont duré une année, qu'on puisse avoir la réconciliation en un jour. Non, les autorités politiques de la province comme du pays, ainsi que la population, sont tous résolument engagés vers la voie de la paix. Et sans la population, nous ne pouvons pas avoir cette paix. C'est comme ça que j'ai dit que la population doit s'impliquer, parce que la paix et la réconciliation sont un processus. Ça prend du temps. Il nous faut, entre les deux parties prenantes, de la volonté pour y parvenir.
Pour revenir à vous, les autorités locales, vous parlez de sécuriser les populations, mais cette même population, une certaine frange, estime que le secteur opérationnel, ces militaires, sont en train de tracasser, de brimer la population. Vous, en tant qu'autorité locale, qu'est-ce que vous dites à cette population pour l'apaiser?
Le secteur opérationnel, en venant à Kananga, par l'ordonnance du président de la République, n'est pas venu tracasser la population, mais plutôt la sécuriser. Et comme vous le savez, les brebis galeuses ne manquent pas dans une famille. Mais aussi, il est difficile à ce stade de dire que ceux qui commettent les tracasseries sont seulement les hommes en uniforme. Parce que la nuit, on dit, nous avons vu les hommes en uniforme, on ne sait pas dire qu'ils appartiennent à tel bataillon ou à tel régiment. C'est très difficile. Et donc, c'est une affirmation à prendre avec beaucoup de réserve.
Maître Adrien Ilobakwey, vous êtes président provincial de l'Association congolaise pour l'accès à la justice à Cage en sigle. Vous avez suivi Maître Mupompa. Vous, en tant que société civile, est-ce que vous pensez que ces réponses sont satisfaisantes?
J'ai suivi Son Excellence, Monsieur le Ministre. Mais nous, en tant que société civile, il y a lieu d'abord de dire à l'autorité provinciale qui est représentée ici que la population a toujours joué son rôle, donc celui de dénoncer, de donner des informations donc à un moment opportun. Mais la société civile constate tout simplement que c'est du côté autorité locale qu'il y a un petit problème, parce que l'autorité locale ne parvient pas à mettre la population dans cette condition-là de donner des informations, d'apporter des informations donc au moment opportun. Parce que lorsque la population dit à l'autorité que nous vivons dans une insécurité, parce que ce n'est pas un secret pour personne, donc la ville de Kananga, pendant ces moments précis, c'est une ville qui est vraiment dans une insécurité. Mais lorsque la population va vers les autorités pour dire qu'il y a insécurité, vous avez suivi la réponse de Son Excellence. Donc on prend tout avec beaucoup de légèreté. Non, écoutez, ce sont les gens qui avaient ravi les armes de miliciens qui font tout ça. Donc les autorités n'ont pas même l'occasion de vérifier ce que la population est en train d'apporter comme information. Là, c'est le premier point. Le deuxième point, la population a besoin d'une information sûre pour certains événements. Parce que lorsque la population n'est pas informée, il y a ce qu'on appelle la désinformation, c'est la rumeur. Chacun se réveille avec son information à gauche, l'information se propage, ce n'est pas bien. Maintenant, qui est habilité à donner l'information? C'est toujours l'autorité qui est habilitée, non seulement pour sécuriser la population, et c'est bien, mais aussi informer au moment opportun, donc dans un moment utile, pour que la population se rende compte que voilà, il y a telle situation, l'autorité nous a dit ceci, nous a dit cela, et c'est une occasion pour que la population soit donc à mesure de se protéger et aussi de dénoncer si l'information lui donnée est dans le sens donc de lui porter secours. Troisièmement, l'autorité locale, parce que nous parlons bien de notre autorité, doit peut-être éviter de mettre la population dans une situation de dilemme. Qu'est-ce que je mérite dire par là? Lorsque la population saisit l'autorité pour lui dire « j'ai telle manifestation », par exemple une marche, nous voulons suivre telle réunion, mais l'autorité locale doit accompagner donc la population pour mettre en exergue les obligations constitutionnelles. Mais qu'est-ce que nous voyons au retour? C'est cette autorité-là auprès de qui la population est allée s'appuyer pour solliciter son aide. L'autorité barricade donc les activités que la population voulait mener. Et là, vous sentez qu'il y a maintenant une certaine contradiction entre ce que la société civile dit à la population et ce que l'autorité réserve comme réponse à la population.
Et ici, vous êtes coordonnateur des affaires civiles et chef de bureau intérimaire du bureau régional de la MONUSCO. La MONUSCO est en train de renforcer sa présence dans la région du Kasaï. Quelle pourrait être sa contribution pour consolider cette paix chèrement acquise?
Merci Alain de l'opportunité que tu me donnes de présenter la perspective de la MONUSCO, en tout cas du bureau régional de Kananga, dans cette discussion entre Congolais. Je pense que du point de vue de la MONUSCO, de notre bureau régional, on peut identifier au moins 10 points d'action prioritaires. Le premier, c'est soutenir l'apport, le déploiement d'assistance humanitaire aux victimes et survivants de cette crise, en prenant en compte les besoins spécifiques des femmes, des enfants, d'autres personnes vulnérables, telles que les victimes de viol. Et ça, c'est le travail qui est fait déjà en cours avec l'apport de OCHA, des agences humanitaires des Nations Unies et des ONG congolaises et internationales. Le deuxième domaine d'action prioritaire, c'est la prise en charge des besoins spécifiques des réfugiés et des personnes déplacées internes, de manière à pouvoir assurer le plus tôt possible leur retour éventuel à leur lieu d'origine, à leur résidence d'origine, et favoriser leur aptitude à entreprendre une activité économique normale qui peut être génératrice de revenus pour eux. Ça, c'est le travail que la MONUSCO fait en collaboration avec le Haut Commissariat pour les réfugiés, OCHA et les partenaires humanitaires qui ont déjà précédemment été identifiés. Le troisième point d'action prioritaire, c'est la prise en charge spécifique des enfants qui ont pris part aux affrontements et aux activités des milices. Ce travail a commencé depuis plusieurs mois déjà avec le soutien de la section pour la protection de l'enfance, Child Protection, et en collaboration avec UNICEF. Le quatrième point d'action prioritaire, c'est d'assurer la protection des civils et la promotion du respect des droits de l'homme. Pour cela, nous avons les déploiements de la force de la MONUSCO ici au Kasaï central, à Kananga, à Chimbulu, à Bulungu et à Luisa. Cette force travaille avec la section des affaires civiles pour établir des réseaux d'alerte communautaire, créer des comités locaux de protection animés par les populations locales elles-mêmes et la section des droits de l'homme. Tout ça en rapport avec la PNC, la FRDC, les autorités politiques, les autorités administratives, les autorités judiciaires, y compris les chefs coutumiers, et avec une contribution remarquable de la société civile et en particulier des ONG locales de protection des droits de l'homme. Le cinquième domaine prioritaire, c'est les efforts spécifiques, on l'a entendu, pour prévenir les exactions qui sont commises par les forces de l'ordre. Donc c'est la population, lorsqu'elle informe les activistes des droits de l'homme au niveau local, qui nous donne cette information, qui nous permet de porter ces informations aux commandants des forces de sécurité pour leur permettre effectivement de faire leur travail.
Esso, vous allez poursuivre la liste de ce que fait la MONUSCO en termes de soutien, mais en revenant sur l'aspect humanitaire, vous avez suivi dans cette salle la société civile soutenir qu'elle ne voyait pas comment ces efforts étaient coordonnés sur terrain et que ça ne portait visiblement pas de fruits.
Il y a des faiblesses dans le système qui sont liées au fait que les acteurs humanitaires sont intervenus ici relativement tard, sont arrivés lorsque les conditions sécuritaires ont permis leur déploiement à Kananga, et ensuite ont commencé un processus de planification, de projection vers le terrain, de coordination aussi, qui met du temps et qui s'appuie aussi sur la disponibilisation des fonds par les institutions qui ont promis d'apporter des fonds, l'identification des lieux prioritaires, l'identification des besoins. Vous voyez, tout ça, ça prend du temps en termes de planification et de préparation des ressources. Depuis quand même quelques mois, des actions majeures ont été déjà menées en direction de points spécifiques. Je crois qu'au niveau de la ville de Kananga, ces actions se font déjà sentir et ça commence à être projeté sur le terrain vers les territoires. Il faut dire ici que le soutien de la MONUSCO à ce déploiement d'actions humanitaires va consister en deux choses. La fourniture d'informations, notamment sur les informations sécuritaires, dans quelle zone est-ce qu'on peut aller, la sécurisation de l'accès vers les lieux et lorsque c'est nécessaire, le transport par hélicoptère ou par d'autres moyens des ressources qui doivent arriver. Je soulignerai en dernier lieu sur ce point que, effectivement, au début de cette situation, ce qui est tout à fait normal, il y a eu quelques balbutiements, mais les organisations humanitaires ont fait un effort de coordination, ont pris la tâche des autorités provinciales et ont mis en place un cadre de concertation qui permet, en rapport avec la société civile et notamment les structures humanitaires locales, qui permet l'identification des meilleures manières de fournir cette aide.
Monsieur Esso, vous avez également relevé l'aspect protection des civils et promotion du respect des droits de l'homme, mais vous avez suivi Maître Adrien Lobakwe d'Akage dénoncer le fait que les autorités locales sont là pour empêcher les manifestations pacifiques, empêcher les marches, envoyer des militaires pour malmener la population. La MONUSCO est un partenaire du gouvernement congolais. Qu'est-ce que vous faites particulièrement ici à Kananga pour que cela change?
Non, je crois qu'il faut dire que depuis mon arrivée ici en janvier, nous n'avons pas eu connaissance de cas de manifestations prévues qui ont été réprimées par les forces de l'ordre. Lorsque ces choses-là se produiraient, notre rôle ici en tant que MONUSCO, c'est lorsque nous avons notification des manifestations, mettre en place un plan de contingence avec un déploiement de forces de police et de forces militaires pour encadrer la manifestation. Nous entrons également en contact avec les autorités provinciales et même les autorités locales et nous discutons des moyens d'assurer l'ouverture de cet espace politique et le bon déroulement de ces manifestations, parce qu'effectivement ces manifestations participent de l'expression par les populations de leur volonté de participer au processus politique et certainement aux élections.
Nous allons prendre la première série de questions. Oui, présentez-vous, monsieur.
Kaboué, j'aimerais d'abord pas poser une question mais faire quelques recommandations aux autorités locales. Ce que je peux recommander d'abord aux autorités locales, c'est d'abord de lutter dans ce que nous connaissons comme conflit, à mettre fin au dédoublement des chefs coutumiers. Il y a eu le forum de la paix. Et eux-mêmes savent ce qui s'est passé dans la salle lorsque le vice-premier ministre chargé d'affaires intérieures a appelé le porte-parole de chefs coutumiers. On a eu au moins deux chefs coutumiers qui se sont présentés. Et pour finir, la police a dû demander aux deux chefs de quitter le devant pour ne pas prendre le micro. Que les autorités locales soient réceptives, c'est-à-dire dans leur collaboration avec la MONUSCO, qu'elles s'investissent à écouter d'abord les recommandations de la MONUSCO. Parce qu'on se rend compte qu'elles sont sur le qui-vive. Toutes les recommandations qui viennent de la MONUSCO, c'est comme si c'est déjà une accusation. Au lieu de les intégrer et mener des enquêtes, on le rejette à première vue. Que l'on soit à l'écoute, écouter et mener des enquêtes pour arriver quand même à établir les responsabilités. Merci.
Merci beaucoup, Charles. Oui, madame.
Je m'appelle Agnès Nyongue, je suis caissière du Conseil provincial de la jeunesse. J'ai deux préoccupations. La première préoccupation, j'adresse à notre troisième intervenant de la MONUSCO. Et parmi les actions qu'il nous a parlé, il a aussi cité la prise en charge des enfants qui ont eu peur aux affrontements. La question est de savoir, depuis que vous êtes ici au Kassai Central, vous avez pris combien d'enfants en charge? La deuxième intervention, je m'adresse à notre ministre provincial de la Justice. Vous avez dit que dans la population, il n'y a pas une communication efficace. Et moi, j'ai dit, il y a une communication efficace parce que le moment où il y a soit violation à Kamaï, directement vous êtes informé. Et je voudrais demander, quelles sont les stratégies prises pour mettre fin à cette situation et en particulier les jeunes, parce que pendant la guerre, les groupes cibles, c'était les jeunes. Merci.
Merci, madame Agnès. Monsieur.
Je suis Alidor Mukendi Kanoupeti. Je suis le vice-président de Ligue des jeunes, de Ligue des Pays ici à Kananga. Vraiment, je pleure. Il n'y a pas 48 heures. Dans mon quartier, il y a des morts. Chaque jour ici, il y a un conseil de sécurité. Mais chaque jour ici, le peuple kassaï ne dort pas. Partout. Là-bas, il y a eu des massacres. On a violé les femmes. Ma question est ceci. Le président de la République est venu là, ouvert le forum. C'était vraiment cher pour nous. Mais jusqu'aujourd'hui, nous attendons d'abord pas la paix ici. Pourquoi? Nous demandons à un ministre. Il y a les jeunes filles, les jeunes garçons qui sont en prison. On a demandé pardon ici. Mais il y a les frères qui sont innocents, qui ne sont ni milices, ni qui, mais arrêtés, jetés là-bas en prison. Nous demandons au ministre provincial de veiller d'abord de libérer nos frères qui souffrent.
Merci. Merci, Alidor. La dernière question pour cette première tranche.
Merci beaucoup, Radio Okapi, de la parole. Je m'appelle Van Frédéric Chilanda. Merci de cette opportunité. Je vais tout de suite aller au BI. Moi, je crois qu'il y a toujours possibilité de revenir d'abord à la genèse du problème au niveau de la province, de l'espace Kasaï. Le conflit en acquis ici, parce que nous, à ce niveau-là, nous avons considéré qu'il y a eu d'abord un délaissement total de la province. Tout est parti de la misère indescriptible dans laquelle vivait la province depuis la nuit des temps. Et les conflits coutumiers n'étaient qu'un fait déclencheur. Alors, ici et maintenant, je ne vais pas vraiment faire allusion à ces forums sur la paix qui n'a pas vraiment abouti à des conclusions importantes parce que tout était venu de Kinshasa, tout était planifié déjà. Et je crois qu'il n'y a pas vraiment à espérer à ce genre de trucs. Je vais dire ici un élément essentiel, c'est quand j'ai suivi les interventions de tout à l'heure, lorsque vous posez la question à ce que la population peut faire pour soutenir la paix, moi je crois que le gros du travail doit être abattu par les autorités. Je voudrais ici donner des exemples. Lorsque nous avons considéré que la misère bat son plein dans l'espace Kasaï, qu'est-ce que les autorités ont fait pour libérer l'espace Kasaï de ses misères? La question que je pose, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez que nous sortons de la misère, mais les autorités s'investissent à multiplier des taxes. Je vais donner un exemple. Les amis se sont attachés à la milice, les jeunes gens généralement. Ils sont entrés dans des milices parce qu'ils n'avaient pas, ils ont compris que la milice était vraiment porteuse d'une lueur d'espoir dans leur vie. Mais aujourd'hui, une fois que les amis ont accepté de désolidariser de la milice, ils sont en train de conduire les motos, mais les autorités locales ont imposé les taxes, une taxe d'immatriculation qui revient à 50 dollars. Est-ce que vous pensez que cette façon de faire
sert
à la population? Je vais poser la question
merci,
aussi à
merci
la MONUSCO.
Frédéric, souffrez que l'on ne prenne qu'une question. Vous pourrez revenir pour la suite très rapidement. Alors.
Oui, une question à la MONUSCO. J'ai suivi SO ici, qui est chargé des affaires civiles, bien entendu. Il dit qu'il y a possibilité que la MONUSCO mette vraiment les caps sur la possibilité d'aider la population victime à réaliser les activités génératrices de revenus. Mais il se pose aussi un problème au niveau de la MONUSCO. Lorsque la MONUSCO a rétabli la confiance, elle a envoyé son bureau ici, dans l'espace Kasaï. Combien de gens a-t-on recruté ici? Même les cleaners sont venus d'ailleurs.
Merci.
Problème.
Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Frédéric. Monsieur le ministre Mupompa, nous allons commencer par votre série de questions. Vous pouvez y répondre. À vous la parole.
Merci bien, Alain. Avant de répondre à la série de questions, je me dois d'abord de réagir par rapport à ce que Maître Adrien venait de dire il y a peu. Il a soutenu un certain nombre de choses. Notamment la légèreté avec laquelle les autorités provinciales prennent en charge les cas des différentes dénonciations, mais aussi le fait qu'on étouffe la population à s'exprimer. Je crois que par rapport aux différentes manifestations qui sont réprimées, M. Esso a déjà répondu. La MONUSCO joue un grand rôle dans le cadre de la promotion et protection des droits de l'homme. Il a dit que depuis qu'il est là, il n'a jamais eu pareil cas. Et donc, je certifie qu'il ne suffit pas de rester dans son bureau, concevoir qu'on va marcher, penser que vous allez sortir sur la route. Non, on n'est pas dans une république bananière. La République démocratique du Congo est régie par les lois. Vous voulez marcher, il y a la procédure à suivre. Nous sommes dans le régime d'information. Rassurez-vous que vous avez donné l'information à l'autorité concernée pour pouvoir organiser la marche. S'agissant de la légèreté, je ne connais pas un seul État au monde qui, dans ses rôles, dans ses missions de protection et de ses populations et de ses biens, peut prendre à la légère les informations de cas de dénonciation. Sinon, on ne peut pas assister à plusieurs procès qui sont organisés dans cette République lorsque les cas de violation des droits de l'homme sont documentés dans les rangs de nos militaires et de policiers. Et donc, j'estime que Maître Adrien doit revoir et trouver un autre argument à m'opposer quant à ce.
Alors, il y a la proposition de Charles qui est passée aux recommandations, qui vous demande à vous, autorités locales, pour consolider la paix, de mettre fin notamment au dédoublement des chefs coutumiers.
Exact. J'ai suivi M. Charles. Cela fait partie des recommandations qui ont découlé de la conférence sur la paix, la réconciliation et le développement dans l'espace Grand Kasaï. Point de besoin de pouvoir se voiler la face. Ça fait partie aussi
des cas de conflits que nous avons dans l'espace Grand Kasaï. Par exemple, dans notre province, on arrive à dénombrer environ 70 cas de conflits de pouvoir coutumiers. Nous sommes conscients de ça. Le gouvernement provincial et le gouvernement central veillent pour pouvoir de façon très technique, professionnelle, mettre fin à ces dédoublements de chefs pour éviter que la paix puisse être embrasée dans l'avenir. S'agissant de la collaboration qui doit exister entre la MONUSCO et le gouvernement provincial, je crois que là, M. Charles n'a pas été sincère. Nous sommes en face de la personne la mieux indiquée qui pouvait dénoncer le manque de collaboration entre la MONUSCO et le gouvernement provincial ou le gouvernement national. M. Esso est là, il vous a jamais dit que toutes les fois qu'il amène des recommandations, le gouvernement les sabote. Non. Hier comme aujourd'hui, il a salué la franche collaboration qui existe entre la MONUSCO et le gouvernement provincial, parce que nous considérons et nous avons toujours considéré la MONUSCO comme un partenaire privilégié de notre pouvoir. Mademoiselle Agnès, qui a estimé que quelles sont les stratégies que nous devons mettre en place pour pouvoir mettre fin à l'insécurité, je crois que ça relève de la sécurité de l'État. Ces genres de stratégies, on ne les dévoile pas au grand public. Et elles sont secrètes et nous sommes conscients de ce qui arrive. Et d'ici là, la paix va être totalement rétablie.
Monsieur le ministre, les stratégies sont secrètes, mais il faudrait que la population se sente sécurisée.
Vous avez pleinement raison. C'est comme ça que les patrouilles sont en train d'être intensifiées dans la journée comme dans la nuit pour permettre à notre population d'avoir sa sécurité. J'étais en train de chuter avec Monsieur Alidor, qui demande le rôle de la justice. Le rôle de la justice, c'est de sanctionner des coupables et restaurer les tissus sociaux qui sont biaisés, qui sont rompus avec les réfracteurs, avec les gens qui sont hors la loi. Merci. Il demande également qu'on libère les gens qui sont arrêtés en prison. On libère pas les gens en prison comme ça. Il y a la procédure judiciaire qui doit être suivie. C'est au juge, c'est au magistrat, après instruction, qu'il doit apprécier si telle ou telle personne est innocente. Et à ce moment-là, on la libère. Et si elle n'est pas innocente, on la défère devant les juges pour pouvoir connaître sa sentence. C'est comme ça que les choses doivent se passer, monsieur Alain. Merci.
Voilà. Et ici, qu'est-ce que vous répondez aux préoccupations qui vous ont été adressées?
Je crois que c'est la transition que vous avez installée est très bien parce que après mon cinquième point, je venais au sixième point qui était justement relatif à la question des autorités coutumières. En fait, le sixième point, c'est la résolution parce que juste les premiers dont j'ai parlé, c'est des points d'urgence. C'est la situation actuelle. Mais ensuite, en termes de solutions durables, la résolution des conflits de pouvoir coutumiers. Et à cet effet, je suis heureux de dire que depuis le mois de mars, sous l'autorité du vice-ministre, ministre de l'Intérieur, ici à Kananga, a été constituée, en exécution d'un décret présidentiel, une commission consultative pour la résolution des conflits coutumiers au niveau de la province. Et en collaboration avec les autorités provinciales, la MONUSCO, à travers sa section des affaires civiles, a saisi cette balle au vent et a organisé une formation des membres de cette commission, qui représente 5 chefs traditionnels choisis parmi 75 autres à l'occasion d'une plénière, un débat très ouvert, auquel on a adjoint 2 représentants de l'administration et 3 représentants de la société civile. Et ces commissions ont été formées par le ministère national chargé des affaires coutumières sur le statut des chefs, la résolution des conflits et comment adopter un plan d'action pour la résolution effective des conflits de pouvoir coutumier. Sur la base de cette lancée, nous avons projeté cette commission dans le territoire de Demba, où la même formation a eu lieu, et il y a véritablement une histoire de succès là, parce que lorsque la commission est partie à Demba, ils ont trouvé, au lieu de 61 chefs coutumiers qu'on attendait, 87. Il y avait 26 de plus qui contestaient les premiers. Mais sur le champ, au cours d'une assemblée générale constitutive de leur comité au niveau du territoire, ils ont résolu ces problèmes. Et ils ont fini par trouver 61 chefs légitimes. Les autres ont accepté de ne pas participer.
Avant de poursuivre, je vais donner la parole à Maître Adrien tout à l'heure, mais il y a cette question sur le recrutement à la MONUSCO. Il y a même des cleaners qui sont venus d'ailleurs, alors qu'ici à Kananga, il y a des jeunes qui sont en manque d'emploi et qui peuvent le faire.
Oui, c'est très facile. Monsieur, il faut nous approcher. On va vous donner l'information. Moi, je ne suis pas d'ici. Mais je sais que beaucoup de gens ont été recrutés à la MONUSCO ici. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Donc rejoignez-nous, venez voir, on va vous donner les informations. Il n'y a rien de secret là-dedans. Je dirais la même chose à la dame. Je suis très à l'aise. L'une des zones de succès de la MONUSCO depuis que nous sommes déployés ici en janvier, c'est ce qui a été fait pour les enfants qui étaient associés aux milices de Kamuina Nsapu. Déjà au mois de février, je crois, en consultation avec les autorités provinciales, 52 enfants ont été libérés après une analyse de leur situation. Et depuis, des centaines d'enfants ont été désolidarisés des milices, exfiltrés de leur milieu. Entre Child Protection chez MONUSCO et UNICEF, ces enfants ont été envoyés dans des centres appropriés et subissent au jour le jour une prise en charge pour essayer de les ramener à un état normal. Et beaucoup de ces enfants, j'en suis très heureux, sont déjà retournés dans leur famille parce qu'on a estimé que la prise en charge psychologique était suffisante pour leur permettre de retourner à des activités normales. Ils se préparent à entrer dans l'année scolaire.
Merci, Essoyessi. Maître Adrien Lobakwe, il y a Frédéric qui a soulevé la question de la misère au niveau des jeunes. La province du Kasaï central notamment, qui, dit-il, semblait être la plus délaissée des autorités nationales.
J'aimerais d'abord rebondir sur ce que M. Esso et Excellence Mupompa ont dit. J'aimerais leur rappeler tout simplement les tout derniers incidents pour comprendre la violation des droits dus à la population qui s'est passée au vu et aussi de tout le monde. Et il y a eu même un communiqué de la MONUSCO, ce qui s'était passé à la paroisse universitaire. Donc ça s'est poursuivi comme point de chute. C'était les installations de la MONUSCO. Donc, je pense que M. Esso et l'Excellence se retrouvent bien sur cet incident-là. Pour répondre maintenant à la question de M. Frédéric Chilanda, je pense que c'est ça notre même champ de bataille, parce que lorsque nous dénonçons ce genre de choses, on estime que nous bronchons pour telle branche des partis politiques. Il y a un intervenant qui a dit que la province du Kasaï occidental démembrée ne s'est pas retrouvée dans tous les projets initiés par le gouvernement de notre pays. Et lorsqu'on rappelle cela, ça devient un problème. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que par rapport à ce que M. Esso venait de dire, il y a un sérieux problème, il y a aussi des frustrations. Peut-être c'est l'occasion pour les lui dire. Comment pouvez-vous comprendre? Il y a des organisations compétentes ici au niveau de la province. Mais pour dispatcher certains biens pour la population, mais on importe les organisations qui viennent d'ailleurs. C'est comme si ici il n'y a pas une compétence. Et c'est comme ça que la population ne sait pas, la population ne se retrouve pas. Pourquoi? Parce que ceux-là qui viennent ailleurs, ils ne savent pas que le vrai problème, le vrai besoin de la population se pose à tel niveau. Donc ce sont des points vrais et ça nécessite, surtout que son Excellence est à ma gauche, et il doit vraiment prendre bonne note, parce qu'on ne peut pas être contre qui que ce soit lorsqu'on rappelle certaines notions de protection des droits de l'homme. Voilà un peu, parce que pour ne pas donner un autre exemple, lorsque nos amis du Rassemblement qui voulaient se regrouper dans un parti politique pour suivre les discours moral de leur chef à partir de Kinshasa, mais ils ont été dispersés. Toutes ces informations-là se sont déroulées en 2017, entre le mois d'avril et le mois d'août. Je suis surpris lorsque M. Esso dit qu'il est arrivé depuis le mois de janvier et il n'est pas au courant. Et pourtant, toutes ces informations-là sont dénoncées par la société civile. Est-ce c'est une sourde oreille? Là, on ne sait pas.
Voilà, nous allons passer à la deuxième série de questions. Madame, approchez, posez votre question, s'il vous plaît.
Oui, c'est Charmante Mwamba. J'ai deux préoccupations. La première est la suivante. Lors des affrontements entre la milice et la force armée, ce sont les hommes qui y ont perdu leur vie. Les femmes sont restées avec les enfants. Le militaire qui est entré dans la maison, sur le mari, il viole la femme. 7, 8, 10 hommes qui prennent une femme. Est-ce que les femmes-là ont pris le soin médical ou pas? La deuxième préoccupation, c'est sur la sécurité. On nous dit ici que les méthodes prises pour la sécurité sont secrètes. Comment ils peuvent être secrètes? Parce que c'est nous qui avons besoin de la sécurité. Ils peuvent nous dire si nous pouvons adhérer ou ne pas adhérer ça. Et non nous dire que c'est secrète. Merci.
Merci beaucoup, Charmante Mwamba. La prochaine question, madame.
Moi, c'est Antoinette Mupata. Je m'adresse à M. Osso. Dans la collaboration de la MONUSCO et les comités locaux dans l'aspect de la protection civile, quelles sont les procédures? Car nous n'avons jamais entendu parler que la MONUSCO a pu intervenir la nuit dans un quartier quelconque. Merci.
Merci beaucoup.
Moi, c'est Nathan Momonaï. J'ai des questions. Une question, je l'adresse à l'excellence, monsieur le ministre, du point de vue sécurité. Depuis un certain temps, quand il y a toujours des attaques dans la nuit et que l'on puisse bien identifier que c'était des hommes en uniforme, c'est qui se dit à la radio, soit c'est l'autorité qui dit non, voilà, il y a beaucoup des hommes en uniforme, des miliciens s'étaient appropriés la tenue, l'histoire comme ça. Devrons-nous croire que c'est l'incompétence de l'autorité qui ne sait pas identifier, parce qu'il y a des patrouilleurs qui marchent, qui savent que voilà, non, ça sont des miliciens, ça c'est une fausse partie. Deuxième question, je l'adresse à M. Esso de la MONUSCO, surtout en mettant un accent sur ce que Mme Anthony vient de dire. Nous attendons toujours, la MONUSCO a dit qu'elle a une mission de la protection des civils. Comment la population peut atteindre la MONUSCO au cas où elle est attaquée, par exemple, dans un coin, dans la nuit, dans un quartier?
Monsieur le ministre, nous commençons par vous. Qu'est-ce que vous répondez aux préoccupations qui vous ont été adressées?
Après ce moment d'insécurité, le gouvernement de la République est engagé dans un processus de relance de la vie de la population. C'est à travers ce programme que le problème de toutes les femmes violées peuvent facilement trouver solution, d'une part. D'autre part, elles n'ont pas seulement besoin d'être prises en charge sur le plan médical, mais elles ont aussi besoin d'être resocialisées. Déjà, la République est fière d'avoir des partenaires qui travaillent avec des ONG de l'école et qui prennent en charge ce cas. S'agissant de Mme Anthony qui a dit qu'on ne peut pas dire que les mesures de sécurité sont secrètes, je voudrais l'apaiser en disant que ceux-là qui commettent les crimes, ceux-là qui tuent ou qui pillent, qu'ils soient militaires ou les hommes inciviques, appartiennent à nos familles. Ils peuvent être mes frères, ils peuvent être vos frères. Et donc, lorsqu'on pourra étaler les stratégies qui sont mises en place pour les mettre en déroute, c'est nous-mêmes qui irons encore leur informer et nous n'aurons pas travaillé pour la vraie sécurité. Donc, elle peut prendre son mal en patience. On ne peut jamais divulguer les secrets sur la sécurité de la population. Il y a un ami qui a posé une question sur l'incompétence des autorités provinciales à pouvoir identifier les auteurs des exactions et des différentes tracasseries, tout en déplorant ce qui arrive dans nos populations. Je voudrais les rassurer que le gouvernement provincial est conscient de cette situation. Plusieurs réunions, et même dans la salle, l'ont reconnu, sont en train d'être menées pour pouvoir consolider des grandes stratégies afin de permettre à notre population de dormir paisiblement. Ce n'est pas de l'incompétence. Nulle part au monde, la sécurité zéro n'existe pas.
Et ce ici, il y a également des préoccupations qui vous ont été adressées. Que faire pour atteindre la MONUSCO lorsque dans un quartier on est attaqué? Et puis la protection des civils, quelles sont les procédures?
Le forum sur la paix, la réconciliation et le développement n'a pas eu pour effet d'effacer les crimes qui ont été commis. Au contraire, j'étais dans la salle lorsque le président de la République a affirmé que les crimes ne resteraient pas impunis. La MONUSCO et l'ensemble de la communauté internationale sont très sensibles à ce message et sont disposés pour faire en sorte que, pendant qu'on travaille sur la réconciliation, pendant qu'on travaille sur le règlement des conflits, il faut également, pour les cas les plus importants, que justice soit faite.
Alors, dans le cadre de la protection des civils, il y a une question précise qui vous a été adressée. Que doit faire la population qui est en train de vous suivre en ce moment lorsqu'elle est attaquée? Comment est-ce qu'elle peut saisir la MONUSCO?
Très bien. Nos partenaires locaux, nous aussi nous avons des stratégies secrètes, mais tous nos partenaires locaux qui doivent savoir, et ils sont nombreux dans la ville de Kananga et sur l'ensemble de la province, il s'agit essentiellement de toutes les ONG. Ces partenaires nous connaissent, nous communiquons avec eux, nous dispatchons ces informations pour l'information de la population. Donc ces mécanismes existent.
Merci Monsieur Esso. Maître Adrien Lobakwe, Esso a évoqué un aspect important, la lutte contre l'impunité. Le président de la République est revenu sur cet aspect pour dire que personne n'est coupable, n'allait rester impuni, mais souvent en RDC, l'impression c'est que la justice souffre aux dépens de la politique et de la paix.
Oui, merci beaucoup Alain. C'est une question capitale soulevée par M. Esso. parce que vous allez vous rendre compte que c'est notre credo de tous les jours. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas vouloir consolider la paix lorsque la justice est mise de côté. Non, c'est comme ça que ici, je fais un plaidoyer auprès de Monsieur Esso qui représente la MONUSCO, parce que partout ailleurs, la MONUSCO c'est un partenaire privilégié de la justice. Est-ce que Monsieur Esso ne peut pas accompagner la justice pour qu'il y ait des chambres foraines, par exemple, lorsqu'on apprendra que le tribunal est allé faire les audiences, par exemple, à Dibaya, à Chimbulu, à Luebo, à Luisa? Je pense que ça sera une très bonne chose pour que la population se rende compte que, écoutez, je peux incendier, je peux blesser, mais mes actes ne resteront pas impunis. Là, c'est un point. Deuxième point, j'aimerais maintenant revenir par rapport à ce que Son Excellence Monsieur le Ministre et Monsieur Esso ont estimé que c'est une stratégie, un secret pour la sécurité. Je dis non, ça c'est une erreur. Lorsque nous voulons consolider la paix, on doit associer la population dans tout ce que l'autorité provinciale, y compris la MONUSCO, compte faire.
L'émission est en train de se terminer. En guise de conclusion, Maître Adrien Ilobakwe, comment vous entrevoyez la suite du processus de pacification dans la région du Grand Kasaï?
Je pense que la suite passe par la mise en œuvre de tout ce qu'on a pris comme recommandation au forum. J'aimerais insister là-dessus, il doit y avoir une commission de suivi de toutes ces recommandations prises par les différentes personnalités. Deuxièmement, l'autorité locale doit être vraiment prudente par rapport aux dénonciations de la population, parce qu'il ne faut pas toujours négliger l'information qui vient de la population. C'est la population qui est victime de tous ces faits-là, et la MONUSCO aussi doit apprendre à anticiper les choses. La population doit apprendre à dénoncer qu'au temps utile, parce que tous ces brigands-là vivent avec nous, mais lorsque nous les gardons, lorsque on n'est pas en mesure de dénoncer ces brigands-là auprès des autorités, auprès de la MONUSCO, auprès de la justice, ça sera une peine perdue.
Merci Maître Adrien Ilobakwe. Monsieur le ministre Mupompa, comment au niveau des autorités locales vous entrevoyez la suite du processus de pacification du Grand Kasaï, en guise de conclusion aussi?
Le processus passe par, comme Maître Adrien l'a dit, la mise en application, la mise en pratique de toutes les recommandations qui ont été formulées, mais aussi par l'appropriation de ce processus par la population. Elle doit continuer à faire confiance à ses autorités, parce que sans cette collaboration entre population et gouvernants, on ne peut pas prétendre aboutir à une paix durable dans la province du Kasaï central.
Merci Monsieur le ministre Esso. Ici, en guise de conclusion, dans le reste des efforts que la MONUSCO est en train de fournir en termes d'appui au gouvernement de la République démocratique du Congo, qu'est-ce que la MONUSCO peut faire pour que ce processus de paix soit réellement une réalité?
Je voudrais dire trois choses. La première, c'est rassurer le représentant de la société civile qui est là. Il enfonce des portes ouvertes. La MONUSCO anticipe. La population nous connaît. La population sait qui appeler. Quand ils voient des mouvements suspects autour d'eux, ils savent qui appeler. Ils appellent des staffs de la MONUSCO qui peuvent ensuite relayer l'information pour une intervention qui fait que l'incident qui se préparait ne se produit pas. On a étouffé beaucoup d'agressions comme ça, pas seulement à Kananga, mais également dans l'arrière-pays, dans l'œuf.
Deuxième recommandation.
La deuxième chose que je veux dire, c'est que pour parler de l'impunité, de l'absence d'impunité, il y a deux informations capitales. C'est d'une part les enquêtes internationales qui ont été approuvées au niveau de la communauté internationale et du gouvernement de la RDC, qui auront lieu bientôt, qui vont commencer lorsque l'équipe va se déployer ici, sur notamment les questions des fosses communes.
Troisième recommandation.
Il y a au sein de la MONUSCO une cellule dont le rôle est d'appuyer les autorités judiciaires pour poursuivre les cas de crimes qui ont été commis en dehors des questions de fosses communes.
Merci mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Réalisation Joël Bofengo et François Kadima, assisté de Karine Ndamousso et Blaise Ndongala. Supervision Julien Nyamouini et Anne Herman. Paul Badianyama et André Mongou ont assuré la technique. Présentation et coordination, Alain Irung Moshige. Merci au public kanangé pour sa brillante participation. Au revoir.